Je vous propose qu'on prie pour remettre cette prédication au Seigneur. Seigneur Dieu, merci de nous réunir ici en ton nom. Je te prie, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles, que tu éclaires nos yeux pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être des auditeurs attentifs à ta parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs non plus oublieux, qui entendent quelque chose et qui l'oublient l'instant d'après. Mais Seigneur, je te prie que tu imprègnes dans notre esprit et dans nos vies ce qui vient de toi. Seigneur, je te prie de m'aider aussi à transmettre fidèlement ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Apprends-nous à vivre selon ton plan. C'est en ton nom que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Alors j'ai intitulé ma prédication « Un projet pour l'église de Seloncourt avec un point d'interrogation ». C'est évidemment en prévision de cet après-midi et de la réunion de membres que nous allons avoir, puisqu'il y aura une présentation de la vision du projet de l'église. Et donc, pour introduire cette présentation, je me devais de ancrer bibliquement cette histoire de vision. Parce qu'en tant que chrétien, à un moment ou à un autre de notre vie, on se pose la question suivante. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et je ne sais pas où est la petite zapette, mais si quelqu'un peut me la donner, ce serait super. L'autre question qu'on se pose, c'est quelle est sa volonté pour ma vie? D'autres personnes se posent la question, quelle est ma place dans l'Église? D'autres personnes se posent « qu'est-ce que je pourrais faire dans l'Église ?» Et en tant qu'Église, on se pose aussi la question « qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que vous faites là ce matin ? Pourquoi il y a ce bâtiment ici, dans cette ville de Seloncourt ? Qu'est-ce que l'Église doit faire ? Pourquoi parfois on a l'impression que ça ne bouge pas et qu'on a l'impression de faire du surplace ? Je ne prétends pas avoir la réponse à toutes ces questions. Mais ce que je sais, et peut-être qu'on peut se poser la question aussi, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a besoin de renouveler la vision de Dieu pour nos vies, à nous personnellement, et de renouveler peut-être la vision pour l'Église, la vision que Dieu a pour l'Église, savoir où Dieu voudrait emmener l'Église aujourd'hui? Mais alors, cette histoire de vision, c'est quoi? Si tu cliques dessus, ce serait super. Ça devrait, en cliquant dessus. C'est bon. Cette histoire de vision, c'est quoi? Est-ce que c'est une illumination, comme Paul sur le chemin de Damas, tout d'un coup, on voit une grande lumière et puis on a quelqu'un qui nous parle? Est-ce que c'est un buisson ardent, comme Moïse, qui nous indique ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est un ange qui descend et qui parle de la part de Dieu? Dieu l'a déjà fait, il peut le faire encore. Mais au lieu de parler de vision, je préfère parler de projet d'église. Parce qu'une vision, ça nous semble peut-être un peu irréel, alors qu'un projet, c'est réalisable, c'est du concret. Parce qu'une vision, c'est quelque chose de vague pour certains d'entre nous et qui ne parle pas vraiment. Et un projet, ça pointe vers quelque chose, vers une destination. Un projet, ça motive et un projet, ça donne du sens à ce qu'on fait. Encore une fois, le projet, ce ne sont pas les actions, les activités, les objectifs qu'on se fixe. Non, un projet, c'est une vision d'ensemble. C'est une vision à long terme. C'est quelque chose dans lequel on veut voir loin. Alors c'est vrai, dans tout projet, il faut d'abord aller au général avant d'aller dans le spécifique. Il faut d'abord savoir pourquoi on le fait avant de mettre en place des actions. D'accord, c'est pas très concret ce que je dis, alors je vais vous donner du concret. Voilà un exemple concret qui peut vous aider à comprendre ce qu'est un projet d'église. C'est l'histoire d'un homme qui veut faire un voyage en Australie. Il arrive au guichet de l'aéroport, Et il dit à la dame derrière le guichet, « Bonjour madame, je voudrais un billet pour l'Australie, s'il vous plaît. » Alors la dame lui dit, « Oui, bonjour monsieur, mais où en Australie ?» Sydney, Canberra, Melbourne, Adélaïde, où ? Quelle ville ? Ah, il y a tout ça comme ville en Australie ? Oh là là, j'avais pas pensé. Bon, alors, Sydney. Ok, Sydney, d'accord. Vous voulez un aller simple ou un aller-retour ? Un aller-retour, bien sûr. Très bien. Et est-ce que vous avez des bagages ? Ah, non, je les ai oubliés. Mais vous avez de l'argent au moins ? Ah oui, alors il sort un billet de 100 euros, ça suffit ? La guichetière dit non, le billet il vaut entre 1000, 2000 euros dans les moins chers. Et une fois là-bas, vous allez vivre où ? À l'hôtel. Il faut le payer l'hôtel. Ah oui, je trouverai bien, une fois sur place, je trouverai bien une solution. Et vous savez que là-bas c'est des dollars australiens ? Ah, ils prennent pas les euros. Non, un dollar australien, c'est 60 centimes d'euros. Ah bon, d'accord. Et vous y allez pour combien de temps ? Juste pour le week-end, hein, c'est parce que je connais pas, alors je vais aller voir, quoi, je visite. Ah oui, je me suis bien rendu compte que vous y êtes jamais allé, parce que vous savez, c'est 22 heures de vol pour aller en Australie. Donc, aller-retour, ça fait 44 heures, donc il vous reste 4 heures pour faire la visite de l'Australie. C'est pas beaucoup. Sans compter le décalage horaire. Ah, il y a un décalage horaire. Combien d'heures, le décalage horaire ? 9 heures. Alors, si vous voulez, là, c'est midi, donc il est 21 heures à Canberra. Ou 18 heures à Perth, de l'autre côté de l'Australie. Ah oui, ah bon, c'est comme ça. Ah ben, puisque c'est comme ça, j'y vais pas alors. Qu'est-ce qui lui manque à cet homme ? De l'argent ? Sûrement. Mais avant l'argent, est-ce qu'il n'aurait pas dû chercher comment utiliser cet argent ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire la liste de tout ce qu'il allait devoir dépenser. Et avant, il aurait peut-être dû réfléchir à pourquoi, à se renseigner sur le pays déjà, à savoir par rapport aux horaires, par rapport aux villes, par rapport aux hôtels, par rapport à la langue. Peut-être qu'il ne sait pas non plus qu'on parle anglais là-bas. Et puis avant, il aurait dû réfléchir à pourquoi il fait ce voyage. Si c'est un voyage touristique, il aurait dû se renseigner, avoir au moins un circuit touristique à faire. Si c'est pour aller voir des amis, il faudrait déjà qu'il ait des amis australiens. Si c'est un voyage professionnel, il faudrait déjà qu'il soit dans une entreprise qui l'envoie en Australie pour ça. Il aurait dû avoir un plan, cet homme-là. Il aurait dû avoir préparé ce voyage. Il lui fallait un projet, une vision. Alors, c'est sûr, il aurait pu y aller comme ça. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui y sont allés comme ça, la fleur au fusil, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, avec peu d'argent. Ça peut se faire, mais on risque beaucoup. On risque de dormir dehors pendant quelque temps. On risque de ne pas manger à sa faim tous les jours. On risque de se faire arnaquer. On risque de subir les intempéries. On risque de se perdre. D'errer pendant des jours et des jours sans savoir où aller, etc., etc., etc. D'où la question d'aujourd'hui, quel est le projet de Dieu pour votre vie et pour l'Église ? J'inclus volontairement les deux, pour votre vie et pour l'Église, car on ne peut pas séparer l'Église et ses membres. L'Église sans les membres n'existe pas. Nous sommes membres de l'Église, pas seulement le dimanche, mais aussi toute la semaine, en permanence, parce que nous sommes disciples. Alors nous allons ensemble nous pencher sur un texte de l'Écriture qui nous parle du projet de Dieu pour nos vies, notre projet. Et je vais le présenter en trois points. Un projet de disciple de Christ, c'est notre projet par rapport à Dieu. Un projet pour construire et combattre, c'est notre projet par rapport à l'Église. Et un projet pour le monde, c'est ce que Dieu veut que nous fassions personnellement et en Église. Je lis le passage de Luc, chapitre 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette au dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Voilà comment commence notre texte. Est-ce qu'au milieu de cette foule, tous étaient disciples ? Non ? Tous ne suivaient pas Jésus avec les mêmes intérêts. Certains étaient des fans de Jésus. Ils le suivaient parce qu'il faisait le bien autour de lui, parce que c'était un personnage important, parce que ce qu'il disait était plein de bonnes valeurs qui étaient à prendre, en tout cas intéressantes. D'autres le suivaient parce qu'ils avaient vu les miracles de Jésus, parce qu'il avait vu multiplier les pains. Et ils voulaient à manger, donc ils le suivaient pour avoir à manger. Mais le Seigneur Jésus ne cherchait pas des adeptes. Le Seigneur Jésus ne cherchait pas des personnes qui le suivaient par curiosité ou par intérêt. Non, le Seigneur cherchait et cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à tout quitter pour le suivre. Tout quitter pour le suivre. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, que vous connaissez, ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont quitté leur père, leur mère, leur famille, leur métier. Leur métier de pêcheur, leur environnement, leur région, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Connaissez-vous des gens qui ont tout quitté pour suivre Jésus ? Si vous en connaissez, alors vous vous dites peut-être que finalement c'est leur choix. Ils ont peut-être eu raison de le faire, mais c'est leur lot, c'est le ministère qu'ils ont choisi, c'est normal. En fait, lorsque Jésus parle de disciples, il parle de nous. Nous sommes tous concernés. Si quelqu'un veut être mon disciple, il s'agit de nous. Soit vous êtes disciple de Christ, soit vous ne l'êtes pas. Du coup, je vous pose la question, êtes-vous disciple de Jésus-Christ ? Êtes-vous disciple de Jésus-Christ ? Si vous répondez non à la question, peut-être que vous ne l'êtes pas encore. À ce moment-là, on peut en discuter ensemble après ce culte. Si vous avez répondu oui à cette question, alors vous ne pouvez pas vous dérober à ce qui va suivre. Voici les exigences de Jésus en matière de disciples. Ce que Jésus dit ici, au verset 26, est catégorique. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut pas être mon disciple. Dans d'autres versions, on a « s'il n'est pas prêt à renoncer » ou même, dans la seconde, « s'il ne haït pas son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. » Oh Jésus, tu vas un peu fort là. Wow. Arrête. Attends, t'es pas logique. Tu nous dis en même temps qu'il faut honorer son père et sa mère, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, et en même temps tu nous dis qu'il faut détester son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, sinon on ne peut pas être ton disciple. Wow, qu'est-ce qui se passe Jésus? Tu te contredis. Si on essaye un tant soit peu d'étudier la parole de Dieu, on voit bien que Jésus ne se contredit pas. Il ne se contredit jamais. Jamais. Dans toute cette foule, Jésus se devait de faire le tri. Jésus avait des exigences. Et Jésus a encore aujourd'hui des exigences envers nous. Si nous disons « oui, je veux être ton disciple ». Jésus veut dire que parfois, notre famille, nos proches sont un obstacle pour le suivre. Certaines personnes, lorsqu'ils choisissent de suivre Jésus, doivent faire des choix de vie. Abandonner certaines choses qui prennent toute la place, voire même la place de Jésus dans leur vie. Par exemple, leur famille. Vous avez dû voir passer cette information qu'en Algérie, des églises protestantes ont été fermées, à Tizi Ouzou. Cette semaine, mardi et mercredi, dont une église de 700 membres. Et vous avez peut-être vu une vidéo d'un pasteur qui dénonce cela. Ça porte à 15 le nombre d'églises fermées en Algérie. J'étais frappé de savoir que la grande majorité, sinon la totalité des personnes qui étaient dans ces églises sont des chrétiens issus de l'islam, des ex-musulmans. Et quand on connaît la pression que peuvent subir les musulmans qui sont convertis au christianisme, de la part de leur famille, on comprend mieux les paroles de Jésus. Un musulman ne considère pas sa religion comme une option qu'on peut montrer ou cacher comme on veut. Un musulman est musulman en permanence. Il l'est dans sa famille, il l'est dans son quartier, il est dans sa ville, il l'est dans son pays. C'est une question d'identité. Donc si il est plus musulman, il est plus musulman dans son pays, il est plus musulman dans sa ville, il est plus musulman dans son quartier, il est plus musulman dans sa famille. Donc au mieux, sa famille le rejette. Au pire, c'est une persécution, voire même la mort. Certains ont été lapidés parce qu'ils se sont convertis au christianisme. Alors on voit ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il faut l'aimer plus que notre vie. On comprend ce que Jésus veut dire quand il faut l'aimer plus que sa famille. Et Jésus le dit plus en détail quand ça nous est rapporté dans l'évangile de Marc. Marc 8, 34 dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Renoncer à soi, renoncer à sa famille, c'est ce que Jésus nous demande. Parfois, notre famille fait pression sur nous lorsqu'on veut s'engager pour le Christ. Parfois, entre une réunion de famille et une réunion d'église, le choix est vite fait. Bien sûr que c'est légitime de passer du temps en famille. Bien sûr que c'est légitime de prendre soin de sa famille. Bien sûr que c'est légitime d'avoir des loisirs, des temps de repos. Mais si ça prend plus la place que Dieu, si ça prend plus de place au point que Dieu est écarté de notre vie. Si ça se passe comme ça, alors on est en danger. Alors on est en danger. Si on met notre famille, nos intérêts personnels avant Jésus-Christ, on ne peut pas être disciple de Jésus. Le premier principe pour être disciple de Jésus-Christ, c'est de renoncer à tout ce qui nous empêche de nous approcher de lui. Ça peut être le temps passé devant la télé, le temps passé devant Internet, le fait de céder à la convoitise, le fait de se nourrir de mauvaises choses comme la pornographie ou la violence gratuite. Et c'est porter sa croix. Porter sa croix. On s'est souvent trompé dans notre interprétation de ce que voulait dire porter sa croix. Comme si porter sa croix, ça voulait dire qu'être disciple, c'est faire de l'autoflagellation, se rabaisser, supporter des souffrances horribles mais obligatoires pour être un bon disciple. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. C'est pas ce que Jésus dit. Beaucoup de gens acceptent de Jésus sa consolation, sa joie, ses miracles. Mais peu aiment ses souffrances, son abstinence. Peu veulent souffrir quelque chose pour lui. Beaucoup de gens aiment Jésus tant qu'il ne leur arrive rien. Mais devant l'adversité, ils tombent dans le murmure et sont abattus. Je suis désolé de vous dire ça. Mais suivre Jésus ne comporte pas que des bénédictions, des guérisons, des réussites, de la richesse. C'est aussi souffrir pour lui. C'est aussi être rejeté, être mal aimé, vivre des incompréhensions, des tensions. De la part de notre famille, de la part de nos proches, de la part de nos voisins, de la part de nos collègues de travail. Ça fait partie du lot. Des foules nombreuses suivaient Jésus. Mais lorsqu'il a prononcé ces paroles, plusieurs sont partis. Plusieurs ont refusé. C'est trop exigeant ce que tu nous demandes, Jésus. On ne peut pas faire ça. Et nous ? Et moi ? Est-ce que je vais renoncer à Jésus-Christ, à cause de ma famille, en face de mes plaisirs les plus chers, en face de mes biens terrestres les plus chers? Est-ce que je vais renoncer à Jésus? Voilà le projet de Dieu numéro un pour nous en tant que disciples. Renoncer à ce qui nous empêche de le suivre et porter notre croix. Et la première chose qu'on se dit quand on sait ça, c'est qu'être disciple, ça coûte. Oui, être disciple, ça coûte. Ça coûte définitivement. Parce que les disciples qui suivent Jésus, ils doivent prendre une décision une fois pour toutes et passer à l'acte. Renoncer à soi-même, porter sa croix pour le suivre, ça ne se répète pas. C'est une décision définitive. C'est dans la vie chrétienne un moment décisif qui se produit qu'une seule fois. Une fois la décision prise, alors c'est possible de suivre Jésus continuellement. C'est exactement le chemin qu'a suivi Jésus. Jésus a souffert. Il a vécu cette souffrance. Comment est-ce qu'on pourrait penser que notre chemin serait différent ? Jésus a déjà traversé ce chemin. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous aussi le traverser en le prenant pour modèle ? Et j'aime beaucoup cette image de celui qui veut construire une tour. Il y en a qui ont choisi de construire des tours pour de mauvaises raisons. Je ne parle pas seulement de la tour de Babel. Tour de Babel, une façon pour les hommes de se montrer supérieurs à Dieu. Le but était de construire une tour bien plus haut que les nuages, bien plus haut que le ciel. Je ne parle pas de la tour de Pise, qui a été construite sans vraiment prendre en compte ce qu'il y avait dans le sol juste en dessous. Et je ne parle pas de la Trump Tower, qui voulait être le premier gratte-ciel de New York super luxe et qui a coûté bien plus que les 100 millions de dollars qui étaient prévus. Le disciple de Jésus-Christ s'assied pour évaluer la dépense. On peut céder à une vie chrétienne, à l'image d'une vie chrétienne où tout va bien, où tout nous réussit. C'est vrai, après tout, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on peut s'écrouler à la première pierre qui arrive parce qu'on trébuche dessus et on tombe. Au premier obstacle qui nous apparaît devant les yeux, on peut même, pour certains, abandonner la foi. Tout comme certains modèles de personnes que nous avons, certains modèles nous encouragent à suivre Jésus. Certains modèles nous motivent à suivre Jésus. Mais les mauvais modèles, est-ce qu'ils ne font pas exactement le contraire ? Connaissez-vous des personnes qui se disaient chrétiens et qui ont tout lâché, qui ont tout abandonné du jour au lendemain ? Quel effet ça a sur nous ? Est-ce qu'on n'est pas découragé, touché, brisé parfois de voir cela ? Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est disciple, on doit aussi faire attention parce que nous portons sur nous l'image de Jésus-Christ. Si nous nous disons disciples du Christ et qu'à la première occasion on prend la fuite, quel témoignage on a auprès de ceux qui sont nos proches, qui nous regardent, qui nous observent, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ ? L'enjeu est grand. L'enjeu est immense. Le fait d'avoir réfléchi avant de s'engager pour Christ a une conséquence, parce qu'on est engagé à vie. En notre âme et conscience, nous nous sommes engagés. Nous choisissons de ne pas renier Jésus. Non, nous ne sommes pas comme Judas, qui a trahi le Christ pour son intérêt personnel, pour de l'argent, ou pour l'amour du pouvoir. Je me suis déjà posé la question, mais est-ce que vous vous êtes posé la question, comment ont réagi les 11 autres disciples quand ils ont su que Judas avait trahi ? Comment ils ont réagi ? Il y avait un lien tellement fort entre eux. Est-ce qu'ils n'étaient pas déprimés, déçus, plus que ça même ? Et nous ? Que penserions-nous si l'un d'entre nous abandonnait la foi ? Est-ce que on le respecterait pour son choix ? Après tout, chacun fait comme il veut. S'il décide de quitter la foi, il quitte la foi. Son choix. Ou est-ce qu'il serait la honte de toute l'Église ? C'est ça que Jésus veut dire lorsqu'il parle de ceux qui se mettent à se moquer de celui qui a construit une tour et qui n'a pas pu la faire, qui voulait construire une tour. Il ne l'a pas terminée. Si on réfléchit bien, ceux qui se moquent, est-ce qu'ils n'estiment pas à leur juste valeur ce que devrait être un constructeur de tour ? Si tu as un projet pour construire ta tour, construis ta tour et montre-nous qu'elle est construite. Est-ce que ceux qui se moquent n'estiment pas à leur juste valeur ce que devrait être un chrétien ? Si tu dis que tu es chrétien, montre-le. Si on proclame qu'on a donné notre vie à Jésus, qu'on témoigne du changement que Dieu a fait dans notre cœur, dans nos vies, si on tient ferme dans la foi, même lorsque toutes les circonstances sont défavorables, comment on peut abandonner ça du jour au lendemain ? On ne peut pas être des demi-disciples ou même des quarts de disciples. On est des disciples entiers, à 100%. Toute notre vie entière est mise en jeu. Notre communauté entière est mise en jeu. on partage la même foi, on prend la scène ensemble, on vit des temps de baptême ensemble, on croit dans le même Dieu, on fait partie de la famille de Dieu et on l'a chanté encore ce matin. Et lorsque l'un d'entre nous quitte cette famille, on ferait le choix de le laisser aux mains de l'ennemi ? En brandissant l'étendard de la tolérance, au lieu de brandir l'étendard de Jésus-Christ. L'enjeu est tellement grand. Nous portons l'étendard de Jésus-Christ. Et on le porte pas seulement ici dans cette salle le dimanche matin entre 10h et midi. On le porte aussi dehors, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations avec nos voisins, dans les personnes qu'on croise dans la rue, dans ceux qui nous voient. L'enjeu est tellement grand que ça mérite un plan. Ce plan, Dieu le connaît. Dieu a un plan pour nos vies. Il a un plan aussi pour notre Église. Et voilà le deuxième point. Dieu a un projet pour notre Église. C'est un projet de construction réfléchie et de combat calculé. Ces deux exemples de l'évangile de Luc nous le montrent. L'enjeu est grand. Nous devons travailler ensemble à la construction de ce projet. Ensemble, nous devons apprendre à abandonner ce qui nous empêche de suivre Jésus. Et nous devons nous encourager mutuellement à marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Et on en vient au verset 34 qui parle du sel. Je vais passer très rapidement sur ce point-là, sinon je vais être trop long. Au fil de l'histoire, il y a eu beaucoup d'applications du sel, et la plupart d'entre vous les connaissent. On le connaît comme condiment, on le connaît comme conservateur. Mais je voudrais juste vous donner quatre applications bibliques au sel qu'on peut avoir dans notre lecture de la Bible. L'alliance, la purification, la conservation et le goût. Je vous dirai plus en détail ce que ça concerne, mais sachez que le sel a un vrai sens lorsque nous voulons parler aux autres de qui est Jésus. Le sel signe de l'alliance, une alliance qui se rompt jamais. C'est l'alliance que Dieu a faite envers nous. Le sel signifie Dieu fait alliance avec nous, nous lui promettons fidélité, nous l'adorons en lui offrant nos vies. Le sel était aussi symbole de la pureté. Le sel veut dire Dieu purifie. Et nous lui promettons de vivre d'une manière pure en lui consacrant nos vies. Le sel conserve. Il y a un lien entre la parole et le sel. Colossiens 4:6 dit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Il est très drôle ce verset. Mais j'ai l'impression que ce verset veut dire qu'il y a un rapprochement entre le sel et la parole. La parole de Dieu fortifie les croyants. La parole de Dieu fortifie les jeunes et les enfants. La parole de Dieu, lorsqu'elle est lue, étudiée, vécue, enseignée, apprise, nous conserve comme le sel conserve la viande. Voilà ce que le sel veut dire. Dieu nous conserve dans sa parole. Et nous lui promettons d'avoir en retour des paroles salées, des paroles assaisonnées de sel, pleines de son amour et de sa compassion. Et puis, il donne du goût, on le sait, le sel donne du goût. C'est l'application la plus connue. Le sel rehausse les plats que nous mangeons. Avoir du sel en soi, c'est que lorsqu'on fait partie d'un groupe de personnes, ce groupe change. Ce groupe n'est pas le même. Parce qu'il est salé. Il est plus fade. Dieu le fait par une transformation du cœur. Si on le laisse nous transformer, il va nous utiliser pour être du sel là où nous allons chaque jour. Le sel veut dire Dieu donne du goût à nos actions et à nos paroles et nous lui promettons d'apporter des paroles et des actes salés auprès de ceux qui en ont besoin. Voilà le troisième projet de Dieu, un projet d'être le sel pour faire alliance, purifier, conserver et donner du goût. Et je passe à ma conclusion. Vous connaissez peut-être ce livre. C'est ici le chemin, marchez-y. Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu ? Est-ce que ceux qui l'ont lu peuvent lever la main ? Moi, c'est la première des choses que j'ai faites en arrivant ici. C'est Marc qui me l'a donné, ce livre, pour que je le lise. parce que ce livre parle de l'histoire de Samuel Dubois, qui est le fondateur de notre Église. Ce livre, il l'a écrit pour raconter son histoire, notamment le fait qu'il a été rejeté par l'Église protestante pour différentes raisons, mais surtout pour expliquer comment il en est arrivé à fonder l'Église du réveil du pays de Montbéliard, c'est-à-dire cette Église, et comment il a acheté le terrain sur lequel est construite cette Église, et comment le bâtiment dans lequel nous sommes a été construit. Alors quand on lit le livre, on est un petit peu dérouté parce que pour des questions de confidentialité, les noms ont été changés. Samuel Dubois, c'est Samuel Boisvert. Seloncourt, c'est Solcourt. Montbéliard, c'est Belmont. Et Bondeval, le village au-dessus, c'est Valbon. Et je vais vous lire quelques extraits. Je les ai pris directement dans le livre, mais je me les suis mis pour pouvoir vous les lire facilement. Écoutez bien. Il n'y en a pas pour longtemps, mais écoutez bien. Les épreuves qui s'étaient abattues sur le foyer pastoral de Solcourt, donc Seloncourt, commencèrent à alerter de nombreux milieux chrétiens, tant en France qu'à l'étranger. Le président de l'Église libre de la Côte aux Fées annonça sa visite et vint, accompagné de sa femme et du président des Églises libres de France. La présence de ces chrétiens apporta au Boisvert, vous les connaissez, un grand réconfort. Les deux présidents avaient l'un et l'autre la certitude qu'une heure décisive sonnait pour le pays de Belmont, Montbéliard. À la Côte aux Fées, les deux églises, réformées et libres, s'étaient réjouies du renouveau que Dieu opérait en ce pays, en particulier à Solcourt, à Seloncourt. Plusieurs frères de ce village avaient vu cette œuvre de leurs yeux et avaient vu aussi l'ébranlement sous les coups de la persécution. Ces visiteurs passèrent la nuit à Solcourt et se retrouvèrent réunis le lendemain autour du petit déjeuner. Et un fait extraordinaire se produisit alors. Une institutrice arriva en coup de vent pour informer les Boisverts qu'un industriel de son voisinage venait de lui offrir un terrain à prix très bas. Elle ajouta « Je n'ai que faire de ce terrain, mais j'ai pensé que vous pourriez l'acquérir et y construire une petite maison. Les amis ne manquent pas qui se feraient un devoir et une joie de vous aider. L'inconvénient, dit-elle encore, ce sont les conditions que pose le vendeur. Il faut être acheteur rapidement et prendre tout le terrain qui mesure 1000 mètres carrés. » Cet ami était venu faire cette communication juste avant de se rendre à son école. Les amis, qui avaient tant prié la veille, se regardaient avec étonnement. Tous avaient le même sentiment. Dieu parlait, intervenait, exauçait, bénissait. Et ils allèrent voir le terrain du miracle, pardon. Il était merveilleusement situé, à mi-hauteur, entre Solcourt et Valbon, en bordure de route, entouré d'arbres et de verdure. Ils y pénétrèrent et acquirent la certitude qu'il fallait l'acheter, et associer à cette entreprise de foi d'autres chrétiens combatifs. « La suite appartient à Dieu », dirent ses frères et sœurs. « Il donnera vision, sagesse et discernement. » Et l'Éternel lui donna bien plus que cela. Le lendemain, les Boisverts reçurent une visite inattendue, celle du pasteur de l'église évangélique libre de Bâle. Depuis de longues années, ce pasteur et Samuel Boisvert étaient liés de solides amitiés. « Quel bon vent t'amène en ce pays ?» lui dit ce dernier. « On entend parler du pasteur de Solcourt, répondit ce frère, comme d'un homme traqué, persécuté, frappé d'interdiction de ministère. On t'aurait dénoncé comme fauteur de troubles, on aurait même demandé ton expulsion du pays. Alors je suis venu voir ce qui se passait réellement. » À la vue du terrain, ce pasteur fut conquis. Et voilà ce qu'il a dit. « Il saute aux yeux, dit-il, que Dieu l'a révélé et l'a donné. Nous vous aiderons à le payer, et pour la suite, Dieu donnera la vision de ce qu'il a décidé d'accomplir. » Voilà ce que dit Samuel Dubois. « À vue humaine, il ne me restait qu'à partir. Mais Dieu est intervenu. Il a donné un terrain, il a envoyé du secours, il a ouvert des portes, et il semble vouloir barrer tout chemin de retraite. Des chrétiens se réunissent déjà dans les maisons ici et ailleurs, mais pourquoi ne se réuniraient-ils pas sur le terrain du miracle, dans une salle que nous pourrions facilement construire ? Tant d'amis ne demandent qu'à nous aider, aussi bien en France qu'à l'étranger. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin à chacun d'en discerner la nature et d'agir non en toute liberté, mais dans la soumission au Saint-Esprit. Entre-temps, il était allé trouver un entrepreneur italien auquel il pensait confier la construction d'une modeste salle. Un chrétien de Valbon s'était offert à dresser non seulement le plan d'une salle, mais encore celui d'une belle chapelle, offrant avec la salle un harmonieux ensemble. Le Seigneur y mit sa main, car l'urbanisme délivra le permis de construire très rapidement. « Construire une salle ?» dit l'Italien. « Je veux bien, mais pourrez-vous la payer ?»« En ce moment, dit le pasteur, je n'ai pas d'argent. Mais le Dieu en qui j'ai confiance est riche. Et ce Dieu permettra que vous soyez payé au terme de vos travaux. »« Je marche, » dit l'Italien. « Vous avez confiance en Dieu, moi j'ai confiance en vous. » Fin septembre, votre salle sera terminée. Le 19 août, Samuel et Sylvia Boisvert se trouvaient seuls sur le grand terrain lorsque déboucha un gros bulldozer peint en jaune. Ce fut pour eux un saisissant spectacle. « Dieu soit loué !» s'écria Sylvia. Le premier culte en cette salle eut lieu le dimanche 15 octobre 1961. Il fallait du courage pour s'y rendre, beaucoup de courage. Le chemin y conduisant était celui de l'opprobre. Il était l'aboutissement d'une longue persécution, le départ de nouvelles épreuves. Il n'avait l'appui d'aucun prestige, d'aucun titre, d'aucune organisation ni d'aucun conseil. Ce fut nécessairement en leur nom personnel que Samuel et Sylvia Boisvert y avaient invité quelques chrétiens engagés. Le couple pastoral s'attendait, ce dimanche 15 octobre, à un petit auditoire de 15 ou 20 personnes. Il y en eut 68. Était-ce la joie ? Pas encore. Un sentiment d'étrange tristesse bloquait les cœurs. Chacun pensait aux grands auditoires d'autrefois, que Dieu avait bénis, sur lesquels était passé le souffle de l'esprit, et que l'amour avait poussé à d'extraordinaires libéralités. Par la grâce de Dieu, ce défaitisme ne dura pas. La salle se fit soudain chambre haute. La présence de Dieu se fit sentir à tous, et l'esprit de vie inspira puissamment prières, chants, louanges, témoignages, et mit la prédication sur la prédication de l'onction du ciel. Ce premier culte se termina par une première célébration de Sainte-Seine et une première offrande. Tout ce que je viens de vous lire est dans ce livre, vous pouvez vous-même le lire, ce sont des extraits. Le premier culte dans cette salle a eu lieu le 15 octobre 1961. Nous sommes le 20 octobre 2019, il y a 58 ans. Durant cette année 1961, Dieu a appelé. Il a donné une vision à Samuel Dubois. À vue humaine, il serait parti. À vue humaine, il aurait tout abandonné. Il le dit lui-même. Le terrain n'aurait jamais été acheté. Le bâtiment n'aurait jamais été construit. L'église n'aurait jamais vu le jour. Mais Dieu s'est révélé. Dieu a donné un terrain. Dieu a donné les fonds nécessaires. Dieu a utilisé des hommes, des femmes, des organisations pour donner l'argent, pour que la construction arrive à son terme. Alors que le troupeau était dispersé, les gens étaient blessés, éparpillés, dans les maisons, Dieu a entrepris une œuvre de restauration pour ce long cours. Il a agi ici, avec des personnes d'ici, et il a montré qu'il avait une intention précise pour l'église de Seloncourt, dans la ville de Seloncourt, dans le pays de Montbéliard. Le titre de ce livre, c'est « Ici le chemin, marchez-y », est tiré de la Bible, plus précisément du prophète Ésaïe, chapitre 30. Et j'aimerais vous lire à partir du verset 18. « Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. » C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, Jérusalem. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite et quand vous irez à gauche. Le Seigneur n'attend que le moment de nous faire grâce. Alors levons-nous. et empruntons le chemin qu'il nous montre. Ensemble, cherchons la vision de Dieu pour notre Église, le projet de Dieu pour l'Église de ce long cours, tel qu'il l'a donné à Samuel Dubois, pour que nous nous fassions le relais du flambeau que lui a porté. Pour que nous soyons le sel dans la ville de sel en cours. Un sel qui fait alliance, qui purifie, qui conserve et qui donne du goût. Dieu a un projet pour l'Église baptiste de ce long cours. Soyez-en persuadés. Depuis 61, il s'est déroulé. Il y a eu des hauts et des bas. Mais l'Église est toujours ici, aujourd'hui. Alors continuons ce projet ensemble et cherchons ensemble la volonté de Dieu, le projet de Dieu pour notre Église. Est-ce que vous voulez prier avec moi ? Si certains veulent prier, ils peuvent le faire. Et je terminerai. Père Céleste, tu nous demandes d'être le sel de la terre. Tu nous demandes d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Tu nous demandes de faire des disciples, de les instruire, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu nous demandes, Seigneur, d'éloigner tout ce qui fait obstacle dans notre vie au fait de te suivre. Tu nous demandes de porter notre croix. Tu nous demandes de t'accompagner en portant ta croix. Père Céleste, merci parce que dans tout cela, tu ne nous laisses pas seuls. Merci parce que tu es là, à nos côtés, tu es présent dans cette salle. Merci Père Céleste pour cette assemblée que nous formons. Merci Père Céleste pour les jeunes qui sont ici présents. Merci pour les enfants qui sont enseignés dans l'autre bâtiment. Merci pour les qualités que tu as confiées aux diverses personnes. Pour apporter la louange, pour apporter l'enseignement, pour apporter tout ce dont l'Église a besoin. Je te loue, Seigneur, et te remercie pour les nombreuses bénédictions dont a bénéficié l'Église et qui viennent de toi. Alors, Seigneur, ce matin, encourage-nous. Renouvelle en nous ce désir, cet enthousiasme de te suivre malgré les circonstances, de t'obéir malgré les circonstances, de t'aimer malgré les circonstances. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Je te prie, Seigneur, pour ce quartier. Tu connais, Seigneur, nos voisins. Tu connais ceux qui sont en bas dans la vallée. Tu connais, Seigneur, ceux qui habitent Valentigny et Mandeur. Tu connais ceux qui habitent Audincourt, Exincourt, Taillecourt. Seigneur, nous les bénissons en ton nom. Nous te demandons, Seigneur, des miracles de conversion. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous utilises pour l'avancement de ton royaume, pour que plusieurs te connaissent et arrivent à changer de vie, à prendre une décision ferme et définitive d'être tes disciples. Donne-nous, Seigneur, de porter bien haut ton étendard et pas le cacher sous un lit ou dans une maison. Donne-nous de le porter bien haut. De le porter lorsque nous sommes dehors, de le porter lorsque nous sommes au travail, de le porter lorsque nous sommes avec nos amis, nos voisins. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir honte de l'Évangile. Transforme nos cœurs tellement égoïstes qui ne pensent qu'à nous, à notre propre plaisir. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur pour ceux qui sont loin de toi. Je te prie pour les enfants aussi. Pour les jeunes qui sont dans cette salle, je te prie de mettre dans leur cœur ce même feu pour toi. Apprends-leur, Seigneur, à te suivre. Fais-leur comprendre, Seigneur, ce qu'est être disciple. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, parce que sans toi, rien n'est possible. Tout est de toi, par toi et pour toi. À toi soit la gloire. Dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.